Nous méditons, nous continuons à méditer la révélation divine qui nous est donnée dans le livre de l'Apocalypse. Remarquez bien que j'ai envie de m'arrêter un petit peu sur ce qu'on vient d'entendre un petit peu. Dans la Haggadah de la troisième apparition de l'ange Gabriel. L'ange Gabriel est apparu 4 fois dans l'histoire de l'humanité. Une fois pour annoncer le clonage que nous allons vivre cette année, comme étant la fin des temps, et 3 fois pour Jésus. Alors, ça fait 4 fois. Ces 4 fois se rencontrent les uns dans les autres pour faire une seule fois, comme nous savons bien. Et c'est extraordinaire cette apparition de l'ange de la face de Dieu à Joseph. Joseph, ça veut dire celui qui fait grandir. Joseph, Yosef. Celui qui fait croître Dieu dans le monde. Celui qui fait grandir Dieu dans le monde. C'est Joseph. Et Joseph est marié avec l'Immaculée Conception, qui est le germe de la grâce de Dieu dans le monde, incarné. Les deux vont se marier dans l'unité sponsale de l'homme et de la femme, dans une grâce étonnante. Ils sont mariés. Dans la liturgie d'Israël, vous savez que le mariage se fait en 2 temps. Il faut d'abord se marier. Et puis dans la virginité mutuelle, on est marié. Mais dans la virginité mutuelle, on met en place la signification sponsale du corps. Ce qui est impossible sans la chasteté, sans la virginité et sans la sainteté. Le mariage, proprement dit, n'a aucune valeur s'il n'est pas inscrit dans un germe humain profond. Parce que Dieu ne peut pas germer du dedans pour mettre l'amour spirituel incarné. Le mariage le plus parfait qui ait jamais existé dans l'histoire de l'humanité, c'est celui de l'Immaculé avec celui qui est juste jusque dans sa substance. Le 19e verset de saint Matthieu que nous avons lu tout de suite dit, voilà, et cet homme était juste. C'est l'homme juste. To dikaios on. Hé, tzadak. C'est le tzadak, c'est celui qui est l'incarnation de l'ajustement à Dieu et de l'ajustement au prochain. Cette incarnation, c'est un homme. C'est le fils de David, annoncé par tous les prophètes. Son nom est Joseph. C'est lui, le roi d'Israël. C'est extraordinaire que le roi d'Israël, annoncé par tous les prophètes, soit Joseph. Qui le sait aujourd'hui? Pratiquement personne. Parce qu'un espèce de gros cochon a pris sa place, il s'appelle Hérode. Un coupeur de tête. C'est extraordinaire. Et lui, il a laissé la place à Hérode. Parce que la royauté profonde, la royauté définitive, la royauté universelle, la royauté incarnée, vient d'en haut. Joseph vient d'en haut. Sa royauté n'est pas de ce monde. Jésus en a parlé avec Ponce Pilate de ça. Ma royauté ne vient pas de ce monde. Et Joseph s'est marié avec l'Immaculée. C'est extraordinaire, ce mariage extraordinaire qu'il y a. Mais Joseph vient de découvrir que son épouse, c'est la Vierge d'Isaïe. Ils sont mariés. Et l'Immaculée, il sait très bien que Marie est immaculée. Quand vous épousez quelqu'un et qu'on est dans une transparence pareille, on sait tout. Il sait très bien que Marie, c'est l'Immaculée. Il le sait parfaitement. Il découvre donc que l'Immaculée porte, comme l'avait prophétisé Isaïe, le plus grand des prophètes, que la Vierge d'Israël enfanterait par miracle de Dieu et par la puissance de sa virginité. Et c'est d'une manière virginale, incarnée, que s'engendrait Dieu lui-même dans son sein. C'est écrit en toutes lettres dans le prophète Isaïe, chapitre 7, verset 7 plus 7. Et qu'elle mettrait au monde le Messie d'Israël de la même manière qu'il avait été conçu, dans l'incarnation de chair et de sang, d'une lumière limpide, d'une lumière transfigurée, d'une lumière incarnée. Le mystère de Noël, de la nativité, est une fête de la lumière. Noël s'est passé dans la transfiguration d'un nid chaleureux, sponsal, incarné, où l'homme et la femme avaient disparu pour faire la crèche de la nativité. C'est ce qu'ont remarqué les bergers. Et Joseph fait partie de tout ça. Voilà. L'ange Gabriel apparaît, Joseph. L'ange Gabriel est apparu, remarquez bien, extraordinaire, n'est-ce pas, que c'est dans le Kadosh HaKadosh, le Saint des Saints, du Beit HaMikdash, du Temple de Jérusalem, où jamais l'ange Gabriel, jamais il n'y a une manifestation divine, aucune kabod, aucune, jamais. Là, pour la première fois dans l'histoire du monde, la gloire de Dieu se manifeste dans le Saint des Saints du Temple, tandis que Zacharie est là. Et il lui annonce la conception de Jean-Baptiste. L'ange Gabriel, vous voyez, ça c'était environ 153 jours avant, excuse de cette précision, 153 jours avant le jour de l'incarnation du Seigneur. Et oui, bien sûr. Parce que effectivement, avant qu'il y ait eu l'incarnation du Seigneur, il y a eu le mariage de Marie et Joseph. Et ce mariage de Marie et Joseph a réalisé un cri dans la terre et dans le ciel. Et la face de Dieu a pu se manifester dans le Saint des Saints du Temple. Pourquoi le Temple avait été construit? De manière que pouvait donc s'inscrire dans le lieu de la conception de l'homme, de l'enfant, qui est le symbole même du Saint des Saints du Temple de Jérusalem. Le Saint des Saints, c'est quoi? C'est le lieu, le seul lieu, et le seul jour où Dieu peut être vu. C'est le seul jour, c'est le jour du Yom Kippour, vous savez, dans le Rosh Hashanah Rabbah, où le Christ, symboliquement sous forme de ce prêtre, désigné par Dieu, et pas par les hommes, rentre dans le Saint des Saints. Donc c'est le seul instant, et le seul lieu du monde, où Dieu peut se manifester. Ouais, c'est un peu comme dans le clonage. Le clonage, c'est le lieu de la conception, c'est le seul instant. C'est le seul lieu où Dieu se manifeste, directement. Et c'est le symbole dans toute la Bible, c'est le Saint des Saints du Temple de Jérusalem. Il y a un lien entre les quatre apparitions. Notre conception, notre création. Eh bien, c'est dans... Vous voyez, c'est pour ça que cette apparition de l'ange Gabriel à Zacharie manifeste que l'unité sponsale de Marie et Joseph a ouvert la possibilité au ciel de faire rentrer le Messie dans la conception d'un être nouveau. Et donc, Jean-Baptiste est conçu par Zacharie dans le sein d'Élisabeth. Avec ce cri d'Élie le prophète, l'esprit d'Élie. Tout le paradis terrestre abandonné, toute la terre de la grâce, toute l'alliance, tout est rassemblé dans la puissance de cette conception sous la rosée de l'unité sponsale de Marie et Joseph qui viennent de se marier. Le cri de soif de l'humanité qui cherche son Messie a atteint sa perfection. 153 jours après, pendant 153 jours, ce cri va se manifester à travers un embryon, c'est celui de Jean, Jean-Baptiste, qui crie dans le désert de l'unité sponsale de Marie et Joseph, et qui crie avec eux. Ils sont trois. S'ils n'étaient pas trois, le ciel ne se serait pas ouvert pour l'incarnation du Messie. l'ange Gabriel apparaît à Joseph. L'ange Gabriel apparaît à Marie. Comme c'est beau ça. Il apparaît à Marie dans le plein jour de midi. Il apparaît à Joseph dans la pleine nuit du sommeil. Alors, si vous voulez, là, ça y est. On peut aller vers la nativité. Il va y avoir quelque chose de grand. Donc Joseph sait très bien tout ça. Il n'y a qu'un seul homme sur la terre qui peut savoir ça. C'est lui. Le fils de David. Une grâce d'affinité avec l'Immaculée Conception. Mais dès qu'il voit que c'est sous l'opération de l'unité du Père et de son Verbe dans la procession du Saint-Esprit, cette procession du Saint-Esprit dans l'unité du Père et de son Verbe qui a été expliquée par Moïse et par les Nachis d'Israël pendant 1300 ans. Lui sait ce que ça veut dire. Pensez bien que Nathanaël, par exemple, expliquait ça sous le figuier. Et expliquant ça au Hokmah et à Talmud qui étaient autour de lui, transfiguré, Jésus lui est apparu. Vous vous rappelez de ça? Alors Joseph est plus grand que Nathanaël quand même. Qu'on vient de pas dire Joseph, lui, c'est un imbécile qui ramasse le crottin du cheval. Ou de l'âne. Oui, il ramasse le crottin de l'âne, c'est vrai. Moi aussi. C'est pas pour ça que... C'est royal, ramasser le crottin de l'âne. Merveilleux. Le Messie est venu rentrer dans le bourbier du péché de l'homme. Comment le fils de David, le père de Jésus, pouvait-il ne pas trouver son ciel dans les choses les plus pauvres du monde? Et c'est à lui, lui qui était dans la pleine connaissance de la lumière, dans la pleine sponsalité avec l'Immaculée Conception, les sources de la grâce adoptante, lui qui était là, il avait bien vu que c'était la Vierge d'Israël. Prophète Isaïe avait dit ceci. Prophète Isaïe avait dit, vous savez, quand on le lit en hébreu, c'est incontournable, vous voyez, c'est magnifique. Voici le signe que je donne. Un seul signe, le signe. La Vierge. Alma, en hébreu. C'est pas Betara, c'est Alma. Avec un verbe en hébreu qui veut dire conçoit d'un seul coup, mais continuellement après. Vous voyez, elle conçoit. Et c'est comme Alma est le sujet, et c'est un sujet actif. Donc c'est la Vierge qui, virginalement, conçoit et fait naître. C'est un verbe intransitif, si vous voulez. Donc c'est un verbe qui montre que c'est direct et continuel après. Et que les rabbins, vous voyez, quand ils commentent le prophète Isaïe, quand ils le commentaient, c'est pas dans le Talmud, mais quand ils le commentaient, dans les textes, des commentaires des rabbis, des nachis d'Israël, ils disaient, on a les textes, hein, donc il n'y a pas de problème de la synagogue là-dessus. Et voilà, c'est la Vierge, c'est virginalement qu'il doit y avoir une conception. Alors, les nachis d'Israël disaient, c'est tout simple, c'est Dieu qui fera la conception. C'est pour ça que c'est, ils disaient, ils expliquaient, c'est Moïse qui avait été le premier à l'expliquer, que c'est la deuxième hypostase du nom d'Élohim qui prendrait naissance dans le Messie, par sa propre puissance, par la virginité de la femme. Ce que Moïse n'avait pas compris ni expliqué, c'est que ça se ferait à travers l'unité sponsale avec le fils de David. Ça nous est réservé à nous, ça. C'est un secret pour les chrétiens, ça. La virginité de Marie n'est pas un secret. La divinité du Messie n'est pas un secret. C'est proclamé depuis 3300 ans. Mais l'unité sponsale. Tout à fait différent. Et il sait. sait très bien que c'est le Messie, tient du sein de sa femme, de son épousée, de sa moitié sponsale, et que ça s'est fait, j'allais dire, en dehors, si je puis dire, de son opération, que ça s'est fait dans son enveloppement, en utilisant cette unité sponsale qu'il avait avec elle, mais de manière purement instrumentale. Il n'a rien fait. C'est un instrument divin. Alors, voyant cela, l'évangile de saint Matthieu dit ceci. C'est Dieu qui a pris toute la place. Mon rôle est terminé. Je dois m'effacer. Il se demandait comment la laisser à Dieu seul, puisqu'il avait pris possession d'elle. Et c'est pour ça que l'ange Gabriel lui apparaît pour lui dire, mais non, c'est ton épouse. Sous-entendu, c'est parce que c'est ton épouse qu'il est là. Alors, n'aie pas peur de la prendre chez toi, mais vous voyez, c'est ça qui est terrible dans le français, c'est du dedans de toi. Que tu prennes du dedans de toi ton épouse. Et pendant quelques mois, il a pris dans sa chair et dans son sang, en vertu de l'unité transfigurée et diaphane de leur unité sponsale, il a pris du dedans la chair et le sang du Christ qui était en train de croître. Et la croissance de Jésus enfant s'est fait, nourrie par l'unité sponsale de chair et de sang, en une seule chair, de Marie et Joseph. Ça, c'est extraordinaire, ça. Et si bien que Jésus est né de Joseph, et la Haggadah de Saint-Luc, la Haggadah de Saint-Matthieu le disent, Jésus, né dans la chair et le sang, fils de Joseph, Joseph, fils de Jacob, Jacob, fils de Nathan, Nathan, fils de... Et il remonte jusqu'à Adam, il remonte jusqu'à David, dans la génération de la chair et du sang. Donc la chair et le sang de Joseph sont des véritables sources de l'incarnation du Seigneur. Dieu ne peut rien faire sans l'amour incarné et parfait. Et l'Apocalypse explique tout ça. Si on n'a pas compris ce que je viens de vous dire, vous ne comprendrez rien à l'Apocalypse. Rien. Alors, ce sera un truc magnifique, des dragons, des tonnerres, des sceaux, des grêlons, The Day After Tomorrow, etc. Mais c'est tout. Là. Rien, vous comprenez? Rien, rien. C'est ça qui est fou, quoi. C'est. Les choses saintes, vous voyez, sont des mystères réservés aux saints. Il ne faut pas rester à la surface. Plonger dans les profondeurs de la foi et aller au-delà de la nuit de la foi pour toucher et être envahi par le mystère incarné, l'invasion de Dieu. L'Apocalypse ouvre ses secrets pour que cette invasion s'incarne dans un monde totalement déchu. Et nous en serons les témoins. Puisque l'année a sonné, n'est-ce pas? L'heure du Christ est arrivée. L'Apocalypse va ouvrir ses portes. Et ça, on ne peut pas le nier. Aujourd'hui, on en est sûr. C'est pour ça que maintenant on peut lire l'Apocalypse. Nous en étions arrivés au chapitre 2. On va lire tranquillement. Hein. On ne va pas se presser. On a tout notre temps. Vous savez, Saint Joseph, il ne s'est pas pressé pour courir. Quoi, voyez. Non, non, l'Immaculée est là, c'est bon. Hein. Et nous, c'est pareil. Hein. Nous. Alors, on venait de lire dans le chapitre 1 l'apparition de Jésus. à Yohanan ben Zebeda, Jean, fils de Zébédée. Celui que Jésus préférait. Il avait 100 ans, mais j'espère que je verrai ça avant d'avoir 100 ans. Hein. Je suis plus âgé que lui, moi. Hein, oh. Ça m'a tant en compte. Oh. Ben, lisons-le tout de suite, alors, comme ça. On anticipe. Vous voyez ça que bon. Quand on lit l'Apocalypse, on anticipe. On hâte le jour du Seigneur. On ne peut pas rester comme ça. C'est pas possible, c'est pas possible. Notre cœur nous appelle, notre cœur nous étreint, notre cœur nous presse pour lire l'Apocalypse, c'est évident. Il faut. Bon. Allez. Alors, continue. Est-ce qu'on avait vu les huit manifestations qui enveloppaient le Christ glorifié au milieu des sept menorahs d'or, les sept chandeliers à sept branches, vous savez? Et Jésus était revêtu. Et ce revêtement, c'est ce qu'on avait vu la dernière fois, ce revêtement, c'était la manifestation visible de la gloire humaine de Jésus. Et la manifestation visible de la gloire humaine de Jésus dépasse complètement la gloire de la résurrection de la chair du Christ. La résurrection de la chair humaine du Christ, le corps de Jésus est ressuscité d'entre les morts. Alors, il a traversé tous les instants et tous les lieux, corporellement et physiquement, puis il a fait exploser les limites du temps et de l'espace, et même de la matière, et dans l'anastase, il s'est introduit dans la procession de la lumière de Dieu éternellement. Tout nu, si je puis dire. Dans la nudité de la résurrection. C'est l'anastase du Christ. Mais voyez bien qu'il manquait quelque chose. Il manquait quelque chose. Parce que le Verbe éternel de Dieu, l'intimité vivante de Dieu, la deuxième personne du nom d'Élohim, Yahweh, la deuxième personne, le Verbe de Dieu, c'est l'épouse. C'est l'épousée. Dieu est époux et Dieu aime Dieu. Alors Dieu est époux et il aime Dieu qui lui est tout intérieur. À l'intérieur de l'époux, il y a l'épouse. Vous voyez, c'est ce que dit l'ange Gabriel à Joseph. Prends du dedans de toi intérieurement ton épouse. Et Dieu est amour, communion des personnes. Donc à l'intérieur de Dieu, il y a Dieu vivant intérieurement. Qu'ils l'épousent et ils disparaissent tous les deux dans l'unité sponsale, éternelle, incréée, pour réaliser la production du nom de Dieu. Le souffle divin du Saint-Esprit, qui est don. Eh bien, la deuxième personne qui joue le rôle de l'épouse, qui est l'intériorité vivante de Dieu, que Dieu épouse sans cesse, en disparaissant en elle, eh bien, cette deuxième personne de la très sainte Trinité est féminine par essence, féminine par hypostase, dans la substance de Dieu. Si bien quand Jésus, qui a assumé une chair masculine pour sauver le genre humain, déchu à cause d'Adam, eh bien, c'est sûr, il a réalisé un mariage avec l'humanité. Mais quand le corps de Jésus est ressuscité d'entre les morts, il n'a pas pu donner la manifestation de l'épouse qu'il était dans sa personne divine à celui qui l'épouse dans la première hypostase du nom d'Élohim. Il fallait donc qu'il y ait l'assomption de l'Immaculé et que la résurrection de la femme dans la chair et le sang s'associe à la résurrection du Christ nouvel Adam pour que la résurrection de la nudité de la résurrection du Seigneur soit revêtu dans l'unité sponsale du nouvel Adam et de la nouvelle Ève en une seule résurrection, par la résurrection de la femme. Et c'est ainsi que Marie a été assumée. Et elle est ressuscitée avec le Christ. Alors elle est le revêtement, on dit bien, la mère est le sacrement du Père. Oui, c'est sûr. La femme, comme dit saint Hildegarde, est la splendeur de l'homme. Et ça, c'est l'apparition qu'il a. C'est Jésus apparaît, mais toutes les splendeurs dont il est revêtu sont les splendeurs de son unité incarnée et glorieuse avec Marie. Avec Marie, avec l'Immaculée, avec l'Assomption. Ils sont donc deux ressuscités dans une seule résurrection. L'humanité intégrale, il n'y a plus ni homme ni femme, il y a la résurrection de l'humanité intégrale. Et saint Jean, lui, le sait très bien. Quand Jésus lui apparaît, il n'est pas devant Jésus, devant Jésus ressuscité. Il n'est pas devant Marie ressuscité. Il est devant l'humanité intégrale ressuscitée. Et c'est ce que nous avons vu la dernière fois. Quelles sont les 8 manifestations de la féminité glorieuse dans la chair et le sang de la femme au ciel. C'est beau parce que vous voyez, ce sont ces qualités glorieuses de Dieu, Verbe, Dieu vie intime et éternel de Dieu, dans notre chair et notre sang, qui vont resplendir dans notre propre résurrection. C'est pour ça que quand Jésus apparaît, ainsi revêtu du manteau de son épousée, il dit, ben voilà, il a dans sa main, c'était le 7e aspect, je laisse tomber les 6 autres, puisqu'on les a vus, dans sa main, il y avait 7 étoiles. Il y avait 7 étoiles. Dans sa main, la main, ça représente donc, c'est ce que nous disions la dernière fois, ça représente l'acte parfait de la résurrection. C'est l'étoile parfaite dans la nuit, l'étoile absolue, la lumière absolue dans la nuit. Et la lumière absolue dans la nuit, vous le savez, c'est l'Immaculée Conception. Mais ici, elle est dans la résurrection. Elle est incarnée. L'acte parfait de la résurrection, ça veut dire que l'unité du nouvel Adam et de la nouvelle Ève, ressuscité, produit quelque chose. Engendre quelque chose. Il n'y a pas de stérilité dans la résurrection. On est sur la terre, on en rajoute, la fécondité, tout ça, et puis après on arrive au ciel, éternellement, vous voyez, plus rien. Comment ça, plus rien? C'est pas Zazen au ciel, hein? Le vide? Non, c'est pas le vide. Non. Les anatements, oui, d'aller à Mat, ok, très bien, il ira à la périphérie du Péras de notre univers cosmique, et puis il sera flanqué là dans la fécondité éternelle. Très bien, si ça lui intéresse, ça l'intéresse. Moi, je vais pas le courir derrière, hein, je veux dire. Il n'a qu'à se réincarner dans le néant autant qu'il veut, et en plus il se réincarnera pas. Alors donc, pas de problème. Hein. Mais il y a de la fécondité, enfin. Bien sûr, c'est ça, dans la main droite, il y a 7 étoiles. Il y a une production. Une production de vie. Une production de lumière. Une production de simplicité. Une production scintillante. Vous voyez ? Quelque chose qui réjouit. La nuit, si je puis dire, du ciel de la gloire de Dieu. L'Immaculée Conception, vous voyez, va être reproduite éternellement au centuple. Quand je dis au centuple, c'est pas assez, vous sentez. Hein? Donc, signifié, voyez, par de manière très très belle, très simple, très. Et ça, ce sur quoi je veux insister, c'est que saint Jean, quand il voit ça, il sait très bien ce que ça signifie. Il rentre. Quand vous voyez la main droite, si un jour vous avez une apparition, je sais bien que ça arrive à la plupart d'entre vous régulièrement. Bon, Si vous avez une apparition et que vous voyez cette étoile dans la main, vous allez dire, oh, bien, elles sont belles, c'est cette étoile, voilà. Oh, j'ai envie de le peindre, etc. Vous rendez compte. C'est désespérant de voir des gens comme ça. Alors, donc, mais non, quand on voit les sept étoiles, on dit, il faut rentrer dedans. Vous voyez ? C'est extraordinaire. Fusez du Saint-Esprit quand vous aurez une apparition. Ne restez pas au côté esthétique. C'est splendide, je suis tout à fait d'accord, c'est splendide. Ça, c'est d'accord. C'est splendide, c'est très beau. C'est très beau. Mais c'est pour y aller. Quoi, alors, c'est pour s'engloutir dedans, quoi, dans cette main, dans ces sept étoiles. Et puis, voir ce que c'est du dedans. Vous comprenez ? Fusée du Saint-Esprit, appuyez sur le bouton, allez-y. On a marre de voir des gens derrière les barreaux. On peut continuer. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de ce livre. De sa bouche, un glaive à double tranchant sort. Son visage, comme le soleil resplendissant dans toute sa splendeur. La sainte face de Dieu. J'aurais voulu m'arrêter longuement sur la sainte face de Dieu. C'est la sainte face de la paternité de Dieu. Vous sentez bien? C'est la sainte face. C'est pas très féminin. La sainte face. Marie, dans l'Immaculée Conception, porte la gloire de la résurrection de Joseph, qui est l'incarnation glorieuse en sa propre résurrection de la face de Dieu le Père, première personne de la très sainte Trinité. Il resplendit comme le soleil, il resplendit comme mille soleils, il resplendit de la ferveur mille, voyez, dans toute sa splendeur, de l'Immaculée Conception dont il est poussé. Vous voyez, nous avons ici le signe que l'Église catholique enseigne sans en faire un dogme absolu, que Joseph est ressuscité d'entre les morts. Ils sont trois. Vous l'avez ici, sur le rétable, là-haut. Joseph est ressuscité. Jésus est ressuscité. Et ils reçoivent Marie au moment où ils l'assument dans son assomption. Et c'est Joseph et Jésus qui assument Marie dans l'assomption. C'est ce que dit saint François de Sales, docteur de l'Église. Mais vous l'avez ici de manière très très belle. Très très belle. Et quand vous verrez la sainte face dans le visage de l'humanité intégrale et glorieuse, rentrez dedans. Rentrez dedans, assimilez-vous à cette sainte face. Rentrez dans les 14 vertus glorieuses de la paternité incrée de Dieu dans la chair ressuscitée du Christ. Faites ça. C'est vraiment ça la porte de l'Apocalypse. Nous verrons d'ailleurs quelles sont ces 14 portes qui s'ouvrent. Les 14 qualités. Oui, puisqu'on a vu toute l'année dernière les qualités pour rentrer dans le cœur humain blessé. Les 88 qualités, hein, 88 vertus. Eh bien, il faudra absolument, au cours de la mendication de l'Apocalypse, que nous voyons ces 14 qualités qui permettent d'aller au-delà de la résurrection de Marie, Joseph et Josie, pour rentrer dans cette préparation à la vision béatifique, dans la face de Dieu le Père, pour voir Dieu lui-même. Directement, avec notre chair, avec nos yeux, avec notre corps. 14 qualités, 14 vertus de la face de Dieu. C'est très beau. Nous reviendrons là-dessus, mais c'est une introduction. Bon. Alors, comme le soleil, en le voyant, ouais, c'est le huitième, le fils de David, en voyant ce huitième aspect de l'Immaculée Conception glorifiée, Jean tombe à ses pieds, mort. Comme mort, osphos, c'est mort comme mort. Ça c'est l'au-delà, vous voyez, au-delà de la résurrection. Toute l'Apocalypse va montrer qu'est-ce qu'il y a au-delà de la résurrection. Parce qu'on ne vit pas sur la terre pour ressusciter d'entre les morts, hein, et être glorifié dans le ciel, ça, on s'en fiche. C'est ce qui se passe au-delà. Au-delà.
Un peu plus.
C'est un petit pas. Il y a un voile. Il y a un voile. Et tu rentres dedans. Et le voile se déchire. C'est ça, Apocalypse. Le voile s'est déchiré. Le voile s'est déchiré pour Yohanan. Pour Jean. À 100 ans. Ça me plaît, ça. Vivement que ça m'arrive. Mais seulement tu meurs, hein, je veux dire, comme mort. Alors, il mit sa droite sur moi. Et il y avait 7 étoiles dans sa main droite. Et si tu meurs, difficile d'être une fusée du Saint-Esprit pour rentrer, hein. Surtout qu'il y a le visage, la sainte face, glorieuse. Alors, alors c'est l'Immaculée Conception portée dans son unité spensale avec Joseph Glorieux. C'est Dieu le Père lui-même qui pose ses 7 étoiles sur moi et qui s'introduit. Les 7 étoiles, c'est sous le sceau de l'Immaculée Conception glorifiée dans la Trinité glorieuse de l'humanité intégrale que va s'ouvrir dans ma contemplation chrétienne le livre de l'Apocalypse. Il y a certains qui ont un chemin à faire, hein. Un petit chemin. Ça, c'est le béaba, hein. Ça, c'est vraiment le béaba. C'est pour les enfants, ça. C'est quand je pense qu'il y a des gens qui s'y mettent à l'âge de 50 ans, ça me donne envie de vomir. C'est terrible, hein. Non, c'est fait pour les enfants, ça. Hein. Oui. C'est le début, quoi. C'est le début de la vie chrétienne. Voyez. Donc, et il me dit, ne frémis pas. Parce que frémis, il était tout dans un état quasi-comate de coma, quoi. Hein. Et donc, fascinendum et tremendum, comme dit Saint Hildegarde. Vous savez, quand vous êtes comme ça, c'est vrai, vous êtes comme mort parce que l'esprit est hors de vous, quoi, hein, donc il n'est plus dans votre chair, votre sang, c'est trop fort. Oui. Alors, et tout est dans un état de suspension, et ça fait une espèce de frémissement, enfin je sais pas. Fascinandum et tremendum. Ça fait quelque chose de très curieux, c'est très doux en même temps, c'est vrai, ça pourrait être traumatisant, hein. Quand c'était les soldats, vous voyez, au tombeau de Jésus, la résurrection, c'était très traumatisant pour eux, parce qu'ils étaient dans le péché, ils n'avaient aucun désir de Dieu. Mais Jean, lui, avait le désir de Dieu. Alors, il y avait quelque chose de très doux, un frémissement, c'est fascinandum, c'est une fascination. Un tremendo, mais un tremblement, mais. C'est le tremblement de la résurrection, si vous voulez. Je sais pas comment dire. Ça pourrait se décrire comme. À dites-le en latin, comme ça vous aurez tout compris. Fascinandum, être aimé. Et puis vous avez qu'à avoir des apparitions, et puis vous ne me casserez plus les pieds. Bon. Voilà. Bon. Ah oui, pas tout. Ne frémis pas. C'est ce qu'avait dit l'ange Gabriel à Joseph. N'aie pas peur de prendre chez toi Marie, ton épouse. C'est la même expression, vous voyez. Ne frémis pas. Ne frémis pas. Parce que quand il y a ce frémissement et que vous le ressentez, je vous signale à l'avance, c'est quand ça va t'arriver, tu vois. Ça va t'arriver plus d'une fois, hein. Et bien quand tu auras ce frémissement, si tu repères ce frémissement, c'est que tu n'es pas au diapason. Tu n'es pas au diapason. Ça veut dire que tu regardes ce qui t'arrive. Ouais. Alors l'ange dit, non. Ne frémis pas. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Ne frémis pas, ça veut dire aussi ne te regarde pas. Ne regarde pas ce qui t'arrive. Regarde celui qui arrive. N'aie pas peur. Ne frémis pas. Moi, je suis. Ayez la même parole que à Moïse dans le buisson ardent. Ayez, Asher, ayez. Je suis. C'est Dieu. C'est Dieu rendu visible. C'est Dieu rendu sensible. C'est Dieu rendu présent dans l'intégralité de la résurrection, de la chair et du sang, de la Trinité glorieuse de Jésus, Marie, Joseph. Je suis. Ayez. Ayez. Vous ne pouvez pas séparer l'Immaculée Conception de Jésus. Vous ne pouvez pas séparer l'Immaculée Conception du Père de Jésus. Vous ne pouvez pas séparer Dieu de son Verbe. Et vous ne pouvez pas séparer le Verbe et celui dont il est le principe du Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas séparer le Yod du Hé. Vous ne pouvez pas séparer le Hé du Yod. Vous ne pouvez pas séparer le Hé du Vav. Yehoah, le nom d'Élohim. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas séparer ce que Dieu est. Et Dieu est un, Adonai Echad. Ne le séparez pas. Jésus est la manifestation de l'un éternel de Dieu. Parce que cet un éternel de Dieu vient de la communion sponsale des personnes. Dieu est amour. Dieu n'est pas sec. Ayez. Je suis le premier et le dernier. Le vivant. Le vivant, c'est la deuxième personne de la très sainte Trinité. Qui porte les trois. Jésus, Marie, Joseph dans la résurrection. J'étais mort. Et voici. Vois. Vois ici. Je suis vivant. Je suis le Verbe, ça veut dire. Je suis l'intimité vivante de Dieu. Je suis vivant pour les pérennités des pérennités. Pour les siècles des siècles. J'ai les clés de la mort et du Sheol. Écris donc ce que tu as vu. Ce qui est. Et ce qui va arriver après cela. Le mystère des sept étoiles que tu as vu dans ma droite. Et des sept menorahs d'or, des sept étoiles, ce sont les messagers, les anges des sept églises, et les menorahs, les sept, sont les sept églises. Vous voyez, je ne m'étais pas trompé la dernière fois. C'est Jésus lui-même qui dit que lui est le corps mystique de la Jérusalem spirituelle. Sont une seule vie. L'Église. L'Église n'est parfaite dans le Christ que quand c'est le Christ tout entier qui a rassemblé tous ses membres dans un seul corps vivant. Et donc il appelle à passer de ces trois, de cette étoile, à la multitude de la Jérusalem céleste. Et c'est ce passage des trois, la résurrection, à la multitude de la Jérusalem céleste, en un seul corps vivant dans le Verbe de Dieu, qui fait toute la trame et la tension du livre de l'Apocalypse. Et qui va montrer les voies divines par lesquelles vont faire cette assomption va se faire, avec la même puissance que celle qui s'est réalisée dans le mariage de Marie et Joseph, avec la même puissance que celle qui s'est réalisée dans la production de l'Immaculée Conception de la Vierge, avec la même puissance que celle qui s'est réalisée dans l'unique résurrection de ces trois, en un, pour la manifestation de celui qui est un et trois, éternellement. C'est très beau ça, hein? Les sept étoiles. C'est les sept messages, c'est les sept manifestations de l'Église. L'Église ne peut pas se manifester à travers le péché. L'Église ne peut pas se manifester à travers ses erreurs. L'Église ne peut pas se manifester à travers ses jalousies internes. L'Église ne peut se manifester que dans les sept étoiles. L'Église ne peut manifester ce qu'elle est que dans l'Immaculée Conception accomplie dans tous ses membres. La manifestation de l'Église, c'est l'Immaculée Conception reproduite dans la chair et le sang des membres vivants, du corps mystique vivant, du Messie vivant d'Israël. Le Verbe éternel de Dieu. Et le Verbe éternel de Dieu qui manifeste ce que Dieu vit a comme manifestation ces sept manifestations qui sont représentés par les sept étoiles. Et la manifestation parfaite de l'Église, c'est la grâce divine manifestée. C'est l'Immaculée Conception. Et voilà pourquoi il a posé la main comme ça. Hein? C'est pas génial ça? Attends, tu rigoles ou quoi? Regarde. Et quand... Il faut voir ce que c'est que l'Immaculée Conception. C'est... Et on le verra au fur et à mesure, on va comprendre. De toute façon, c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. On est donc d'accord. Ce n'est pas quelque chose qui se comprend non plus avec le cœur. Ce n'est pas une question de cœur. Ce n'est pas une question de l'âme non plus. Ce n'est pas une question d'intériorité. C'est une question de messager. C'est une révélation. Une révélation qui nous est donnée dans la lumière, qui ne vient pas de la terre, mais qui est très facile à comprendre. Si on la mange, si on s'en nourrit et notre intelligence du coup voit, comprend, en pleine lumière. Vous voyez, quand notre intellect agent se nourrit de la lumière qui dépasse le point de vue, donc tout simple des origines, pour rentrer dans la plénitude de l'accomplissement de l'Immaculée Conception, alors à ce moment-là, on va au-delà. Et à ce moment-là, notre intelligence, notre cerveau, notre intellect agent a été fait pour ça. Donc la chose qu'on va comprendre, même sur la terre, mieux que tout, ce sera ça. Quelquefois je ne comprends pas mon prochain, et c'est normal. Quelquefois je ne me comprends pas moi-même, et c'est normal. Ça c'est plus facile à comprendre, surtout moi. Quelquefois je ne me comprends pas moi-même, heureusement. Il n'y a aucun intérêt de se comprendre soi-même. C'est intéressant uniquement pour Freud. Sa seule passion, c'est d'être pissé contre un arbre. Je veux dire, ça va pas loin. Hein. Donc, se regarder soi-même, bon. Donc, ne pas se comprendre soi-même, ça n'a aucune espèce d'importance. Mais la plus belle chose qu'on puisse comprendre, ce qu'on va comprendre le mieux dès cette terre, c'est ça. On le comprend parfaitement. Facile en plus. Trop bien, quoi, comme on dit aujourd'hui. Trop bien. Ah ouais, trop bien. Alors, et du coup, il va y avoir ces sept messages, ces sept révélations, ces sept manifestations qui, en fait, vont s'incarner dans les membres vivants du corps mystique vivant qui sont écrasés par Lucifer sur la terre et qui va faire tout pour les écraser, les bloquer, les traumatiser, les tenter, les tuer. Pour qu'ils détournent leur attention de ce qui est la chose la plus facile à comprendre. Pour qu'ils détournent leur attention de leur oui intérieur. Pour qu'ils détournent leur attention de leur vocation, de leur mission, de leur propre création, de leur destination éternelle, de ce qu'ils sont dans le livre de la vie éternellement. Il va tout faire pour qu'ils acceptent de s'effacer eux-mêmes du livre de la vie. Et dans ce contexte de culture d'enfer et de mort, il va y avoir ce grand, petite, magnifique, parfaite étoile, les sept étoiles. Et le travail de cette fécondité toute cachée dans l'océan de la nuit pour réaliser le grand mystère de l'Apocalypse, c'est-à-dire du salut par le Messie. Et ça, ça va se faire à travers ceux qui ont la foi et à travers ceux qui vivent de la grâce et du fruit de l'accomplissement des sacrements du Messie d'Israël, de Christ notre Seigneur, de ceux qui vivent de Jésus crucifié. Parce que c'est de Jésus crucifié que sort sans cesse la grâce de l'Immaculée Conception. Pour ça, vous connaissez la formule classique que les chrétiens disent tous les jours: je renonce à Satan, à toutes ses œuvres, à toutes ses séductions. Et je m'attache à Jésus-Christ crucifié pour toujours. Waouh! Ah, c'est. Oh, tiens, la voix est libre, c'est bizarre. Oh, je recommence. Hop! C'est extraordinaire, ça. C'est pas parce que c'est Jésus crucifié, c'est parce que c'est Jésus crucifié qui fait ourdir une fontaine éternelle de l'Immaculée Conception en lui dans le Sainte-Face de Dieu. Tout simplement. Et il n'y a pas d'autre voie. Il n'y en a pas d'autre. Ce que dit l'Apocalypse, celui qui rajoute ou retranche une seule lettre de ce message, il n'y a pas d'autre voie, est perdu. Il subira tous les châtiments qui sont écrits dans le livre. Il n'y a pas d'autre voie. Pourquoi ? Parce que les autres voies sont trop compliquées. Celle-là est infiniment simple. Pas pour l'orgueilleux. Pour l'orgueilleux, c'est pénible. Mais pour celui qui est simple, celui qui est humble, celui qui est normal, c'est très bien. C'est très bon. Au messager, à l'ange de la communauté de l'église d'Éphèse, écrit. La communauté, c'est l'ecclésiane, vous comprenez, le rassemblement d'Éphèse. Alors, cette fois-ci, il va y avoir les sept églises, il va y avoir les sept messages aux sept églises. Les sept manifestations aux sept rassemblements. C'est les sept manifestations de ce qui fait l'unité du corps mystique rassemblé. Il y a des gens qui disent, moi, je vais dans une église, d'accord, je trouve ça bien. Quelquefois, j'y trouve quand même la paix, la sérénité, je sors, je vais mieux. Bon. Ok. Normal, puisqu'il y a eu la trace de l'Immaculée Conception qui est passée avant vous. Je me rappelle quand on allait, à l'Ermitage de. Je faisais célébrer la messe dans des ermitages il y a une dizaine d'années, pendant des années, j'allais plusieurs fois par jour, je célébrais la messe à des ermites. Bon, moi aussi j'étais ermite, donc on s'entendait bien. Alors, je célébrais, et il y avait la sœur Geneviève, et puis il y avait la sœur qui était ermite, hein, ils étaient plus. Alors, donc quand ils passaient dans l'église, et puis ils adoraient le Sanctissime Sacrement, le corps palpitant de Jésus, à travers la substance du pain qui vient du ciel. Puis elle partait après pour faire son travail. Mais si vous rentriez dans cette église après qu'elle ait prié, vous tombiez évanoui. Il y avait des parfums partout. Ce n'est pas des petits parfums comme ça. Il me semble qu'il y a un parfum. Non, non. Oh. Alors moi, je disais, ça ne vous ennuie pas, Sœur Geneviève, d'y aller le matin puisque je vous célèbre la messe le soir. Alors, moi j'aime bien aller dans une église parce que c'est agréable. Je me sens mieux que quand il y a les autres. Ah. Oh. Celui qui ne travaille pas, qu'il ne mange pas non plus, c'est pas pour lui. Le travail, c'est le travail du rassemblement ensemble de gens qui acceptent d'être s'arracher au pouvoir de Lucifer et du Sheol et d'être attaché à Jésus crucifié. Ensemble, vous voyez, pour qu'il y ait la grâce, le salut. Et que les puissances contraires dégagent. Vous voyez, ils le font ensemble. C'est les rassemblements. Alors, le rassemblement vivant, divin, dans la chair et le sang de nous ensemble. Vous voyez, quand vous allez dans une église, c'est vrai, regardez là, nous on est quoi, quelques-uns, une poignée, bon. Ben, vous allez dans une église, bon, on est quand même ensemble, qu'est-ce que vous voulez? Mais il se fait des milliards de choses de plus que si j'étais tout seul, que vous étiez tout seul à lire l'Apocalypse. C'est comme si vous crachiez dans un pot. Enfin. Et c'est pareil pour les sacrements. Et c'est pareil pour l'oraison. Et c'est pareil pour tout, d'ailleurs. On doit tout faire dans une unité totale avec tous ceux qui, sur toute la surface de la terre, sont en train de faire ce que nous faisons. Nous faisons un seul corps, mystiquement. Et physiquement. Nous sommes vastes communicants. Et nous rassemblons dans la tente d'Israël. Dans ceux qui luttent pour Dieu, par amour, et tout simplement. Alors c'est à nous, si on est dans cette unité du corps mystique vivant, du Messie vivant, alors c'est à nous, à ce moment-là, que ce message s'adresse. Et il y a cette manière d'être englouti comme membre vivant du corps mystique vivant, de Jésus vivant, dans l'au-delà de la résurrection. Et c'est pour ça que j'aime bien cette chante de Jean-François. Ah, c'est vrai. Emporte-moi au-delà du voile de la foi. Au-delà, on est emporté, oui, là, oui, on est emporté, au-delà du voile, et on est encore plus incarné dans notre monde. Le blé ne peut produire du fruit pas s'il est dans les terres, dans le voyage astral, ou dans les énergies métapsychiques, mais s'il s'enfonce dans la terre. Ceux qui sont dans l'astral, ils ne voient pas le monde d'aujourd'hui, ils ne comprennent pas. Ceux qui sont dans l'énergie ne voient rien. Tandis que ceux qui sont dans la grâce de l'incarnation rentrent dans la terre et ils voient ce qui se passe et ils comprennent le temps où ils sont. Ils sont prophètes, prêtres et rois. À l'ange du rassemblement divin d'Éphèse écrit, il dit ceci, le détenteur des sept étoiles dans sa droite, celui qui marche au milieu des sept menorahs d'or. Ah, je connais tes œuvres, ta peine et ton endurance. Tu ne peux pas souffrir le malin, le mauvais. Tu as éprouvé ceux qui se disent eux-mêmes envoyés, alors qu'ils ne le sont pas. Tu les as trouvés menteurs. De l'endurance, tu en as. Tu as souffert à cause de mon nom. Sans te lasser. Mais j'ai ceci contre toi. Ton premier amour, tu l'as laissé. Comme c'est beau ça. C'est Jésus, Marie et Joseph, voyez ça. Quand Dieu nous parle, qui parle nous qui sommes le rassemblement du corps mystique du Christ sur la terre, ton premier amour. Noël, tu l'as laissé. C'est la première église, ça. C'est la première église. Et oui, tout de suite la première église. Hein. C'est les sept étoiles dans la droite. Hein. Dans l'apparition, c'était le septième. Là, c'est le premier. On commence avec l'Immaculée Conception. On commence avec ce oui dans le Messie, dans le Verbe de Dieu, 9 mois avant notre naissance, où on a été entièrement immergé dans l'océan du oui libre de notre âme. Dans le génome de l'homme. Dans la mémoire ontologique, dans le Zikaron, incarné de Dieu, fait chair et sang, c'était moi, j'ai dit oui. J'étais inscrit dans le livre de vie. Ce oui limpide et simple. Un amour fou, puisque j'ai participé et j'ai reçu dans la participation incarnée et sensible de l'amour du Dieu créateur dans toutes choses. Autant d'amour qu'il en fallait pour toute chose que celle que Dieu le Créateur voulait que j'en donne pour toute chose, pour tout temps. Et j'ai dit oui, librement, lucidement. J'ai gardé d'ailleurs ce oui pendant des jours et des jours et des jours, jusqu'à ce que l'ange me mette le doigt sur les lèvres avant de naître. C'est ce que dit le Midrash rabbinique. J'ai connu ce oui. Tu as laissé ce premier amour. Il ne faut jamais oublier que le premier amour de l'embryon, de la conception jusqu'à la naissance, est un amour communautaire. Ça, c'est très important. Sinon, si on ne pourra jamais le refaire surgir par la mémoire de notre oui, de notre liberté dans le don. Celui qui ne retrouve pas ça, il ne trouve jamais sa liberté naturelle. Naturel. Je ne dis pas la liberté contemplative, spirituelle, mystique, etc. Naturel. Sa liberté humaine. À un moment donné, son cœur va coincer. Beaucoup plus vite qu'on ne le pense, bien sûr. Pas seulement son cœur. Vous comprenez? Évidemment. Mais c'est beau, ça, voyez. Ton amour premier. C'est l'Immaculée Conception. Il faut recevoir dans l'Immaculée Conception le retour à notre conception. J'allais dire immaculée en Dieu. avant, si je peux dire, ou pendant, ou après même, mais dans cette mémoire fabuleuse de la vie communautaire et dans Louis qui est notre. C'est extraordinaire, vous savez, moi, je m'imagine quelquefois, vous voyez, vous allez dire, le père Patrick, il est un peu taré, ce en quoi vous aurez parfaitement raison, mais je peux vous raconter un peu mes fantasmes, bon alors, bon, on peut faire une petite parenthèse, quelquefois je m'imagine que je suis une petite fille de 7 ans. Je trouve ça marrant. M'imagine que je suis ta fille, par exemple. J'aime bien la regarder parce que j'aime bien m'imaginer que je suis ta petite fille, tu vois. Elle a quoi? Elle a 4 ans maintenant, 5 ans. Ah, 5 ans. Bon. Je trouve ça adorable, je trouve ça admirable. Et dis, mais quand elle aura 6 ans, 7 ans, je préfère encore, tu vois. Je préfère encore. Parce que je m'imagine, voilà, parce que il y a des moments où arrive ici à la conscience de raison, si l'enfant est pur, hein, si l'enfant n'est pas complètement broyé par Jack Lang, hein, mais bon, donc il y a, bon, d'accord, bon, alors je vois très bien que quand elle prie, elle sait très bien. À l'âge de 6-7 ans, là, ta petite fille, elle sait très bien qu'elle est dans ce monde comme une lumière. Et elle dit oui, pour être une lumière libre, pure, sans tache, virginale, rayonnante, simple, admirable dans la beauté intérieure et tout ça. Cette espèce de pureté d'une innocence surabondante dans la splendeur. Je ne sais pas. C'est des mots peut-être trop forts, mais en même temps, il faut rajouter toujours, dans une simplicité, d'un bonheur que donne la pureté de la petite fille, qui sait que c'est ça, qu'elle est appelée pour être. Et elle aime ça. Quelle est la petite jeune fille qui n'a pas connu ça? Ça s'est vite refoulé, hein, à l'âge de 8, 9, 10, 11, 12. Et alors l'oubli est total à 17, 18, 19. Mais j'affirme que toutes les enfants, toutes les petites filles ont connu ça. C'est une loi de la nature. Je ne connais pas de petites filles qui n'est pas connue. C'est pour ça que j'aime bien causer avec des petites filles qui ont 6-7 ans. Parce que je constate que... Bon, je vois bien sûr, 5-6 ans après, c'est fini. Elle ne se rappelle de rien. C'est extraordinaire, ce phénomène de la réminiscence. Hein? Mais je vois très bien ce que c'est pour une petite fille. Pour un petit garçon, pour les petits jeunes gens, là, quand ils ont... L'âge de raison, c'est quelque chose d'admirable. Moi, je m'en rappelle encore. C'est admirable, c'est totalement différent. Mais c'est admirable. Admirable. On voit la force de l'homme. Et c'est vrai que les jeunes gens d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez? Ils ont tellement refoulé ça qu'ils sont devenus des passoires. C'est terrible, cette force perdue de la virilité. C'est une force, voyez, c'est admirable. Voyez, c'est autre chose que ce que nous avons vécu dans notre premier amour, au surgissement de notre liberté vive, lucide, amoureuse. Voyez? Mais ces deux-là, ces deux moments, c'est les deux jambes de notre délivrance. Pour que du coup on puisse ouvrir les mains et recevoir, vous voyez, cet message qui est là. Alors, rappelle-toi d'où tu es tombé. Rappelle-toi d'où tu es tombé. Et reviens. Ah, c'est génial, non? Hein, Kevin? Reviens. Rappelle-toi d'où tu es tombé. Et reviens. tes premières œuvres. Fais-les. Sinon, je viens à toi et je ferai déplacer ta menorah hors de son lieu, à moins que tu ne reviennes. Mais tu as ceci. Tu as de la haine pour les œuvres que font les Nicolaïtes, que moi aussi je hais. Le Christ qui dit qu'il a de la haine pour les œuvres de ceux qui remplacent l'amour de leur liberté profonde par l'amour de l'idolâtrie. On va tout sacrifier pour diviniser quelque chose qui est nul. Sa réputation, par exemple. On est prêt à tout sacrifier. Et Nicolas, vous savez, Nicolas, c'est dans l'histoire de la Bible, c'est, vous savez, il y a trois personnages qui sont la honte de l'histoire de l'humanité. La honte de l'histoire de l'humanité, le premier que tout le monde connaît, c'est Judas, le traître. Judas. Vous voyez ? Bon, il faudrait regarder les sept, mais je prends les trois. Enfin, Judas, c'est effrayant. Vous voyez ? Judas, ça va pas. Judas, je sais pas, j'ai beaucoup de sympathie pour Judas, mais parce que nous sommes tous le Judas quelque part de quelqu'un. Nous sommes tous le Judas de quelqu'un. Parce que justement, Dieu est en lui, il y a quelque chose qui fait qu'on a envie de le trahir. On a envie de coopérer à sa déchéance. Ou on a envie, il y a une espèce de... Le démon vous pousse, vous voyez. Et Judas est tombé. Et puis, vous avez eu Salomon, qui était le fils de David. Oh, il a reçu une effusion d'esprit. La roi d'Elohim, il a eu la sagesse de Dieu. Et il a terminé dans la boue, dans la plus grande corruption, Salomon, après avoir construit le temple. C'est à cause de lui d'ailleurs, et de cette déchéance totale de Salomon, que ce temple devra être détruit. Et puis il y a Nicolas. Nicolas, c'est quoi ? C'est pas un apôtre, vous voyez ? C'est un disciple. Et parmi les disciples, après la résurrection et la Pentecôte, le Jésus a fait choisir 7 serviteurs de l'Église du Rassemblement. Et parmi eux, il y avait Nicolas. Vous lirez ça dans le livre des Actes des Apôtres. Et Nicolas a joué dans le collège des serviteurs de rassemblement de l'Église naissante le rôle que Judas a joué dans le collège apostolique. Il a trahi. Il a trahi et il a utilisé toutes les grâces étonnantes du corps mystique naissant pour rentrer dans du paranormal. Pour rentrer dans une espèce de puissance de guérison, de magnétisme. Mais magnétisme, voyez, idolâtrique, en utilisant les puissances intermédiaires. Il s'est servi, si vous voulez, du rayonnement de la grâce de Christ qu'il avait reçu, avec une très grande force d'ailleurs, pour s'intégrer en plus les puissances de l'air, les dominations. Ce qu'on fait par exemple dans la franc-maçonnerie aujourd'hui. On utilise les symboles
christique, par volonté de puissance. C'est diabolique. Et on doit haïr ces œuvres-là. C'est l'antipode de cette étoile. La pieuvre noire, c'est l'antipode de cette étoile, de l'Église. L'Immaculée Conception, c'est la plénitude de Dieu état pur dans la source de la grâce. Et le nicolaïtisme, c'est la recherche de pouvoir, du pouvoir invisible divin. Parce que c'est vrai, Jésus, quand il est ressuscité, il a laissé dans le cosmos, avant de rentrer dans l'anastase, les traces de son énergie, les traces de sa présence lumineuse, les traces. Et il a donné un ordre à l'univers et à la matière, de sorte que les puissances intermédiaires, les puissances déchues, celles de l'arbre séphirotique par exemple, qui sont toutes des puissances déchues, Ein Sof et compagnie, eh bien, ont pu récupérer les forces christiques de Jésus ressuscité, qui les a abandonnées d'ailleurs, puisqu'il est rentré dans l'anastase, il s'est assis à la droite du Père, pour faire œuvre de puissance. C'est ce qu'on appelle le culte ésotérique. Ça, c'est de l'idolâtrie. C'est l'antipode du oui libre de notre premier amour. C'est le dépassement du péché originel dans la connaissance du bien et du mal avec les puissances déchues, qui se présentent d'ailleurs comme des puissances de lumière et des puissances d'amour et des puissances christiques, parce que le démon se cache toujours comme un être de lumière pour détourner. Et Nicolas est le premier à en avoir fait l'expérience. C'est donc la source, si vous voulez, c'est le modèle, hein. Et Nicolas, vous avez eu comme après par la suite un grand ami qui s'appelait dans les Actes des Apôtres, vous verrez, Simon le magicien a eu certains Sitius, je crois, comme disciple, qui lui-même a eu un autre disciple à Babylone, et Sitius à Babylone s'appelait Maniché, Sakyamuni Bouddha, et Sakyamuni Bouddha, dans le nord-est de l'Inde, a fondé le bouddhisme, parce que Bouddha, c'est un disciple, Simon le magicien. Et donc, les Nicolaïtes, bon, c'est seulement au XIXe siècle que la franc-maçonnerie s'est arrangée pour changer dans les encyclopédies la naissance de Bouddha avant le Christ. Mais ne soyez sans inquiétude, c'est faux, hein. Tout le monde sait, d'après les écrits, et d'après les, comment est-ce qu'on appelle ça, les traces, l'épigraphie, etc., que c'est évidemment deuxième siècle, exactement après Jésus-Christ. Vous voyez, tout ça, c'est fondé dans le nicolaïtisme. La gnose, l'ésotérisme,